Bonjour Oul.
Hello.
Comment allez-vous?
Très bien.
Nous sommes ici au Muscadès, la 22e édition du Muscadès à Valette, dans le vignoble nantais. Et vous jouez dans quelques heures, ici, au Muscadès. Alors, vous avez joué il y a à peine 3 mois, à quelques kilomètres d'ici, dans un festival à Clisson. Vous avez ouvert la temple du Hellfest.
Une petite scène du festival à Clisson, ouais, effectivement. Ouais.
Et donc là, au Muscadès, qui est un festival qui existe depuis plus longtemps que le Hellfest, et qui est, on va dire, beaucoup plus pointu en fait en termes de musique extrême que le Hellfest. Alors Oul, moi je vous ai découvert Winter Rising Fest il y a à peu près un an, en novembre 2023. Et vous êtes arrivé, ce que j'avais écrit dans un de mes articles, c'est en fait vous êtes arrivé sur la scène black metal française un peu comme un tsunami.
C'est vrai de le dire.
Ouais. Et très vite, vous avez gagné une certaine réputation, une notoriété, quoi. Mais déjà, pour être programmé dans un festival aussi pointu que le Winter Rising Fest. Alors, comment vous expliquez ça, que vous êtes arrivé comme ça sur...
Alors, comment on l'explique? Ça, c'est une vaste question. Alors, je pense que quand même, la clé de voûte de tout ça, c'est les acteurs de l'ombre. On ne pourra jamais assez remercier pour le soutien qu'ils nous ont fait. Autant d'un point de vue artistique, positionnement dans la scène, un appui aussi administratif ou même juste une aide technique, en fait, des fois, quand on a des besoins. Les acteurs de l'ombre, c'est un label associatif où tout le monde est très motivé pour soutenir la scène. Et mine de rien, juste ça, en fait, fait que ça permet, en tant qu'artiste, de se focaliser sur la musique. Et pas de se poser sur les questions sur où est-ce que j'achète mes t-shirts, à qui je peux contacter dans la scène pour avoir telle ou telle aide, ce genre de choses. C'est un pied dans la porte en fait de la scène métal qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Après, je pense que c'est un peu la musique aussi, j'espère.
Oui, mais si. Si Gérald Milani a fait que vous signiez ensemble, c'est que je suppose qu'il vous faisait confiance.
Ouais. Parce qu'il l'a vu, il avait plutôt cru en nous qu'on a cru en nous-mêmes, sans doute, parce qu'il a plus vu le potentiel que nous, puisqu'au départ, on était parti pour faire. Tout ça en autoproduction, un peu...
À la maison, quoi.
Ouais, voilà, ouais. C'est bien fait. Enfin, peut-être pas à la maison, on pensait déjà...
Mais sans label, quoi.
Voilà, c'est ça, sans label. Au moins, on allait faire les choses bien, mais on les aurait pas faites nous-mêmes. Et puis, c'est avéré que ça s'est passé un peu différemment, mais... Voilà.
Et donc, vous avez très vite signé, en fait, avec les acteurs de l'ombre.
Ouais.
Les acteurs de l'ombre, oui, qui est un label nantais. Donc ce soir, on aura sans doute la visite de Gérald.
On l'a déjà croisé.
Il est déjà arrivé.
On est chez lui, là, donc il est dans les murs, il est partout.
Il est dans les murs. Et c'est vrai que il y a un terreau ici, dans l'ouest, et je dirais à Nantes et un peu plus au sud de Nantes, quoi, dans le vignoble nantais, qui est en fait très, très favorable, en fait, un terreau fertile au métal. Quoi.
Puis, nous, je pense qu'on a... plus joué aux alentours de Nantes qu'à Paris. On revient, j'ai l'impression qu'on revient tous les deux, trois mois pour faire une date aux alentours de Nantes.
Ouais, Nantes, Bretagne,
dans l'Ouest.
On a Rézé avec Déléter et Ossuaire juste après le Hellfest.
On a fait le Hellfest.
On a fait deux fois le Ferrailleur.
On a fait le Crazy Fest.
On a fait le
Graf aussi à Normandie, le Stéréolux. Ouais. Le confonds toujours les deux. Le Ferrailleur à Nantes deux fois. Donc le Hellfest, encore un petit truc, ouais. Donc c'est une région qu'on aime bien et qui nous aime bien a priori. Donc,
en fait, vous êtes basé à Paris,
ouais.
mais d'origine brestoise ou enfin je. Donc c'est ça que je vous ai la question.
Ça, c'est moi.
On a notre garant ouest français qui est là.
Certifié.
Finistère Nord.
Moi je suis né à Brest.
Hein. Voilà, donc vous allez jouer bientôt à Brest.
Ah, j'ai hâte. À la maison.
Au Metalers, à la Carène.
À la Carène, la salle où moi j'ai
La Carène. scène.
J'ai voir des tas de concerts quand j'étais petit. J'avais vu, j'avais vu Deep Purple, je crois que c'était
passé. Ah oui, à la Carène.
Ah ouais, particulier.
Ouais, ouais, mais non, c'est cool, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai grandi avec la scène à côté de moi. Ma mère travaillait juste en face de... Je suis dans un des immeubles juste en face de la salle, donc je connais très bien. C'est vraiment pas loin de chez moi et je faisais de la voile à côté, donc c'est vraiment comme retourner à la maison. J'essaye de ramener mon grand-père sur la date, mais je sais pas si ça va se faire. C'est très bien qu'il voit ça. Ça lui ferait tout drôle, mais... Donc ouais, j'ai... pour l'instant on a fait pas mal de Bretagne, mais pas encore le vrai, la vraie maison, quoi. Là où...
Ouais, en fait le plus loin où vous êtes allé, peut-être c'est au Crazy Fest à Glomel.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Puis donc, Glomel, bah, c'est les Côtes d'Armor, donc c'est pas encore le Finistère, quoi. Mais c'est... on est quand même à la frontière du Finistère.
Mais on a joué dans le Finistère, là, à Kérien, la ferme.
Ah oui.
Ferme Kérien, là où il y a les feux de Beltane et tout ça, ça c'est Finistère, ça doit être Finistère.
Si, alors est-ce que Kérien c'est Finistère ou c'est Morbihan?
En tout cas,
c'est pas Brest. C'est pas Brest. Et là, ce sera Brest même.
Exactement, ouais. Brest même. La rive gauche.
Parler.
Ce sera super.
Donc tu es le seul Brestois et pour les autres, en fait, vous venez un peu de partout, mais vous êtes basé à Paris, quoi. Enfin,
alors
Paris,
en fait, ouais. On est. Moi, je suis d'Alsace. On a un qui est de Limousin et deux qui
Bretagne.
L'île de France. mais ouais, on s'est tous rencontrés à Paris et c'est là que le Houl, comme on connaît aujourd'hui, a commencé à jouer. Auparavant, c'était un groupe plutôt porté par Krav.
Les prémices n'ont pas duré très très longtemps, puisque quand j'ai commencé à créer le groupe, très vite, il y a eu le Covid, fait que le projet a été mis en pause, certains sont partis. Certains n'avaient pas vocation à rester, je pense, très très longtemps dans le groupe. Il y avait des projets de vie qui ne s'accordaient pas. Puis finalement, le Covid a peut-être été bénéfique, puisque ça nous a permis de faire la pause, retrouver les personnes qui constitueraient le vrai noyau dur du groupe. Et maintenant, ça fait depuis la fin du Covid qu'on est tous réunis, et puis on est bien tous ensemble. Donc on compose ensemble, on voyage ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Donc, je pense qu'il y a une bonne cohésion, et ça fait aussi partie de la raison. C'est l'une des raisons peut-être du succès du groupe, c'est qu'on est très très soudés, et comme on fait tout ensemble, on prend des décisions qui sont parfois sûrement meilleures.
On cherche à être très démocratique.
Ouais, donc il n'y a pas un dictateur qui dit c'est comme ça qu'il faut faire. Non.
C'est-à-dire qu'on est tous dictateurs.
En fait, on a tous des avis sur plein de choses.
Oui,
en fait, on discute de tout. Donc tout est soumis à discussion dans le groupe et à débat. Donc forcément, ça fait des fois des discussions longues et des débats à rallonge. Mais à la fin, on arrive à avoir un projet qui nous plaît à tous les cinq, qui nous correspond, dans lequel on arrive à véhiculer des émotions qui sont les nôtres aussi, et dans lequel on s'épanouit en tant qu'artiste, en tant que musicien, mais artistiquement aussi dans l'image que ça renvoie.
Parce que c'est en fait la particularité de votre groupe, en fait, c'est cette inspiration là, qui est de la mer, quoi, enfin l'océan, quoi, et de d'où c'est venu, de Brest, ça, de voilà.
Venu de Brest, de la pêche avec les grands-parents quand j'étais plus jeune, des vacances au bord de mer, de faire de la voile tout le temps. Puis ensuite, quand on arrive à Paris et que tout ça n'existe plus, on trouve un moyen de le faire revivre un petit peu.
Et par le black metal.
Après, on fait ce qu'on sait faire, quoi. Moi, si on m'avait demandé de faire du jazz, si j'avais su faire du jazz, c'est peut-être ça que j'aurais fait, mais...
Tandis que jazz marin.
Moi, ce que j'écoute, c'est du black metal, et mon niveau de guitare me permet d'écrire que du black metal. Ça et du punk, mais ouais. Non, on a... Au début, c'était même plus bretonnant que ça. Ça avait presque un côté folk. Et puis, en fait, on a... C'est dit que c'était déjà pour je pense que pour les... Pour la démocratie dans le groupe, ça avait pas, c'était pas ce qui plaisait à tout le monde. On avait plus envie de faire quelque chose de plus axé black mélodique, donc on est parti là-dessus. On a un peu abandonné les racines bretonnantes qui pouvaient y avoir dans le groupe.
Juste garder le t-shirt Armor Luxe.
Ça c'est Gérald. Ça c'est là de l'eau. Ça, nous à la base, on...
non, c'était une idée.
Ah,
on n'osait pas forcément.
Allez.
Ouais.
c'était jusque là.
C'est là. Ça, ça, ça,
voilà. Mais ce qui reste assez discret finalement.
En fait, l'idée de s'habiller en marin, c'est on avait eu cette idée-là, mais c'est les acteurs quand ils nous ont proposé de signer avec eux, ils ont dit par contre en live, il va falloir mettre le paquet. Ils nous ont dit ben toutes vos idées, vous y allez à fond. Et du coup, depuis, à chaque fois qu'on a une idée débile, ben on la réfléchit beaucoup à se dire en fait, c'est peut-être pas si débile que ça.
Ouais. Mais là, dernièrement, j'ai des idées, mais notre démocratie, une fois de plus, ils refusent mes idées. Je voulais mettre des goélands au plafond qui seraient au-dessus de la scène. Ils m'ont dit que c'était pas une bonne idée, donc pas de goélands, malheureusement.
Mais ouais, ça n'empêche pas qu'on continue à trouver des choses et vraiment à se dépasser en live, parce que nous, c'est un peu notre orientation, on veut.
Que ce soit hyper immersif.
Ouais,
que ce soit hyper immersif. Et puis, le fait qu'eux ne soient pas de Brest, finalement, ça n'a absolument rien changé, puisque l'océan, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mmh.
Ah ouais,
finalement, on a tendu, enfin, élargi les horizons de recherche, d'inspiration. C'est pas juste la côte nord du Finistère, quoi. Sinon, ça aurait été un peu. Parce qu'au départ, c'était presque ça. C'était... Je parlais des bleds vraiment du coin de mes grands-parents et tout ça.
Comment elle s'appelle nouveau, la chanson du Vez?
L'Anduvez, c'est près de Coudalmézo et tout ça. Enfin, bref, c'est vraiment à côté de chez moi. Quoi. Et du coup, bah, là, on a un peu élargi. Maintenant, on fait vraiment juste les bateaux, les marins.
Est-ce que vous réussissez à avoir une mise en scène originale, mais qui ne fait pas trop kitsch, en fait?
Ouais,
et pourtant, les
codes
sont là.
C'est toute la difficulté.
C'est d'être dans le...
Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir les codes visuels, mais de rester assez classique dans la façon d'être sur scène. Et après, bon, après il y a l'élément aussi Adsa qui fait plus ou moins ce qu'elle veut sur scène.
Parce que ça, vous avez une vocaliste, c'est une femme au chant, quoi, dans un groupe de black metal, c'est pas très courant.
C'est pas très courant, mais ça l'est quand même, non ? Il y a quand même de plus en plus de...
Ouais, mais en majorité, effectivement, c'est pas hyper représenté.
Non.
Mais surtout, ce qui nous plaît, c'est que Atsa est arrivée là-dedans, elle a mis un coup dans tout le...
Un coup de pied dans le fourmilière.
Ouais, voilà, dans tout ce qui... Alors, c'est pas la première, hein. Il y a une très très, très très bonne vocaliste avant elle, mais ça permet de remettre une couche là-dedans, de dire, ben oui, il y a des très très bonnes choses. Enfin, des femmes, ça va aussi faire des trucs incroyables. Et elle l'a montré sur l'EP, déjà, on était bluffés par ce qu'elle nous avait fait. L'album, elle a doublé. Surtout après, ouais, effectivement, t'as encore ce que disait Krab, c'est... En plus, sur scène, elle incarne le personnage de la folle. C'est ça, en fait. La folle, ouais.
Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte après les prestations, après les concerts, les choses comme ça, ils se rendent compte plus tard que finalement, ou alors une fois que le set a démarré depuis un moment, ils se rendent compte que c'est une femme au chant, mais c'est pas forcément quelque chose qui est...
Qui saute aux yeux, ouais, en effet, je me suis pas aperçue tout de suite que...
La tenue est pas, comme dans certains groupes, très... Comment dire...
Sexualisée.
Oui.
Ouais, bien sûr, c'est pas pour le dire, mais oui, au moins, tu vois, c'est pas très, très féminin, on va dire, comme particulièrement caractéristique d'une tenue de femme, ce qu'elle porte sur scène. C'est plus l'un des nôtres.
Bah, c'est pratique, pragmatique, quoi.
Ouais. Bah, voilà, on est tous pareils, c'est plus crade, quoi. Et le but, c'était d'être crade et avec un côté un peu fantomatique ou un peu...
Une cauchemardesque.
Ouais, voilà, c'est ça. On n'a jamais rien visé de plus. Et de toute façon, si Adèle avait fait ça, le groupe, on ne serait pas où il est là. Hein. Ça va aussi avec le côté unité dans le groupe. On est tous plus ou moins dérivés de la même manière. Et ça aide plutôt que justement d'avoir quelqu'un qui se différencie. Évidemment, elle a une tenue un petit peu différente, comme Maxime, enfin, Vixa a une tenue un peu différente. Mais dans l'ensemble, en fait, ça reste. Il y a beaucoup de cohésion dans l'ensemble du groupe. Parce que c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne très bien. Il y a une unité.
C'est un peu ce qu'on se dit un peu souvent entre nous, c'est qu'aujourd'hui, Oul, ce qu'il y a dans le CD et sur scène, c'est nous cinq. Et s'il y en a un d'entre nous qui était amené à quitter Oul, ce serait tout de suite une autre facette. On est tellement tous impliqués dans la composition, la production de l'album, albums, la production artistique aussi du groupe, que ce soit sur scène ou dans nos visuels, même sur nos réseaux sociaux, c'est des choses qu'on discute énormément. Ouais, effectivement, le groupe changerait quelque part.
Après, pour l'instant, c'est pas une question qui se pose.
Ah non, de loin pas.
Je pense qu'on pourrait tous qui se fait de l'évolution des choses pour le groupe.
Bah oui,
oui, oui.
Ouais, c'est,
en deux ans, on a eu accès à des scènes. On a été signé chez les acteurs sur un EP. On nous a proposé un Hellfest sur un EP. Maintenant, l'album
n'était pas encore sorti.
Même pas annoncé.
On a eu la proposition du Hellfest pendant qu'on était on était dans le studio en fait, en train d'enregistrer
Celle-Son
dans l'examen. Notre dernier jour, là où on a fait les chœurs de Celle-Son et Gersure, c'est là qu'on a reçu la proposition.
Non, je crois qu'on a eu la confirmation à ce moment-là, non?
Enfin bref. Dans tous les cas, on n'avait pas d'album du tout à ce moment-là.
Ouais, donc juste l'EP, le Hellfest vous appelle, donc vous êtes en train d'enregistrer l'album. Donc vous leur dites, oui, il y a un album qui arrive.
Faites-nous confiance, ça ira.
Ça a été grâce alors il y a eu le bouche à oreille qui a bien marché autour de Nantes et dans la région, dans le reste de la France comme t'en parlais, mais il y a aussi deux choses aussi qui ont joué, déjà la signature avec les acteurs, forcément en termes de visibilité autour de Nantes, ça reste quand même un des acteurs culturels dans le métal extrême, un des plus importants, et l'autre chose aussi c'est Eclosion Booking, donc notre booker qui nous suit depuis les tout débuts maintenant, qui nous a permis d'avoir accès à cette date-là, et qu'on remercie tous les deux. Quoi.
Donc les étoiles se sont alignées, par contre, pour Houl.
Faut croire, ouais.
Ça arrive pas souvent. Plusieurs fois, ça nous est tombé dessus.
Moi, j'étais assez bluffé. Moi, j'ai fait tous les deux, on a fait du coup notre premier Hellfest en tant qu'artiste. Et
puis on s'en vante beaucoup.
On s'en vante beaucoup, du coup, ils en entendent beaucoup parler dans le groupe. Non, c'est effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, quand on parle à des gens autour de nous, qu'on s'arrache à jouer du métal, à métal extrême, on part le vendredi soir pour rentrer le dimanche soir, qu'on passe nos journées, nos soirées à faire de la musique, bah, en fait, les gens, ils comprennent pas la profondeur que ça a, et une fois qu'on leur dit, en fait, j'ai joué au Hellfest. En fait, là, dans le regard des gens, il y a un déclic. En fait, c'est « Ah oui, ok, t'as accédé à ce truc-là ». Donc, c'est une reconnaissance, mais qui va au-delà de la sphère métal, en fait. C'est que vraiment, tout le monde se dit « Ok, d'accord, il a joué au Hellfest ». Même s'ils ne comprennent pas forcément toujours tout ce qui se cache derrière, que ce soit le festival ou la musique en soi. C'est...
Il y a un avant et un après.
Ça, c'est clair, ouais.
Et... Oui, pour les groupes français, mais pas seulement, en fait.
Mais là, nous, justement, maintenant qu'on a fait ça... On est aussi très content de voir qu'on a aussi réussi à passer une porte, passer un pied dans la porte qui amène en Allemagne. Là, on a été confirmé au Ragnarok en Allemagne, et ça, c'est pareil, c'est un gros fest reconnu avec des grosses têtes d'affiche. Il y aura Rottenkreis, Behemoth, des trucs comme ça, sur un fest de 3 jours, sauf que cette fois-ci, c'est en Allemagne. Donc, ça montre aussi qu'on est capable de pas juste être un groupe qui chante en français en France, et que malgré la barrière de la langue, on a réussi à plaire. Peut-être que là, c'est le côté très mélodique du groupe qui permet de casser un peu les barrières de la langue et des choses comme ça.
Pas que, parce que quand on était à Hambourg, tu vois, quand on avait joué avec Kanchur et Bazouchka, des fans des deux groupes à Hambourg nous disaient, en fait, votre musique, je l'ai découvert ce soir, mais en fait, elle me parle énormément, parce qu'Hambourg, grand port... De la mer Baltique, et forcément les atmosphères qu'on véhicule et la même ambiance qui plaît, je pense aussi au public de l'Ouest, ça leur fait quelque chose aussi. Donc c'est effectivement, on arrive bien à marcher en Allemagne également. C'est le deuxième pays où on est le plus écouté, où nous on a le plus de commandes de merch, on a des commandes, des fois c'est impressionnant tout ce qu'ils nous prennent.
Plus de la moitié des gens qui achètent de la musique ou du merch de Houl sont à l'étranger désormais. Depuis l'album, c'est vraiment significatif.
Les textes, enfin même le nom de votre groupe, tout est en français, quoi. Mm. Est-ce que vous allez continuer à écrire vos textes en français?
Absolument.
Oui, ouais, ça c'est
clair. Je pense que c'est tellement plus intéressant. Bon, Lucas, lui, il pourrait écrire des textes en... anglais, puisqu'il est...
Si je savais écrire.
Je peux même les écrire. Incroyable.
Parce que Lucas est aussi
Anglais, ouais.
Anglais, ouais, ouais. Double nationalité. Ce qui fait que on pourrait, si on voulait.
C'est pour ça que j'ai dit l'autre
anglais,
Bretagne tout à l'heure.
Mais c'est moins intéressant, quoi. Enfin, pour Adèle, par exemple, qui écrit maintenant beaucoup de ses textes, autant écrire dans sa langue natale, c'est là qu'on peut faire passer un maximum d'émotions.
La langue française fait partie de votre identité, de l'identité de Houl.
Et surtout, ouais, je trouve que c'est plus facile de jouer avec les sonorités des syllabes, des consonnes, des voyelles en français. Quand on est natif français, évidemment, que en anglais, parce que du coup, moi par exemple, j'ai écrit pas mal de textes pour l'EP et j'en ai écrit un pour l'album. Je m'amuse beaucoup à essayer de, avec les sonorités en fait, et c'est beaucoup plus facile du coup pour moi d'écrire en français parce que je connais un meilleur vocabulaire en français, et ça me permet de mieux travailler ça, le parler. Et du coup, c'est des fois des discussions qu'on a avec Adèle, puisqu'elle retravaille les textes derrière. Et il y a ce truc-là de dire, bon, bah ouais, effectivement, ça sonne bien, mais j'arrive pas à le placer au niveau de la voix. Enfin, il y a toujours une discussion dans ce sens-là.
Et puis en plus, le black metal, c'est un des styles où les gens sont pas regardants. Au contraire, je pense que le public, il y a pas mal de public qui est assez friand de différentes langues, différentes cultures. Mmh. Les groupes norvégiens qui chantent norvégiens, les groupes allemands qui chantent en allemand. Finalement, il y a très peu d'autres styles, je pense, où on peut connaître un certain engouement, un certain succès, tout en gardant une langue que beaucoup ne comprennent pas, quoi. Cannon Fever, là, ils ont explosé, ils ont fait un Hellfest démentiel.
Batushka.
Voilà, ils chantent en polonais, en allemand, tout ce que tu veux, et ça marche très bien parce que ça
ouais.
Si,
c'est vrai que c'est dans des styles où ça se permet plus ce genre de choses.
Et si t'es intéressé par les paroles, tu vas les traduire après. Ouais. C'est
cool. Très bien.
Comment il s'appelait le groupe finlandais là? Avokrunu.
Avokrunu, ouais.
Avokrunu, ouais, qui part en finlandais, en fait. C'est trop bien.
C'est trop cool.
Ouais, c'est trop bien.
Eh ben, merci beaucoup. Bon, je vous souhaite un excellent concert sur cette 22e édition du Muscadès.
Bah, merci.
Merci. On joue à quoi? 19h30.
19h30. Et 16h30.
Ah oui.
Bon. C'est temps de faire quelques interviews. Bon. Merci encore.
Bien, on va commencer à se préparer.
Ouais.